Conclusion. Tous les sophismes que j'ai combattus jusqu'ici se rapportaient à une seule question, le système restrictif. Encore par pitié pour le lecteur, j'en passais des meilleurs, droit acquis, inopportunité, épuisement du numéraire, etc. Mais l'économie sociale n'est pas renfermée dans ce cercle étroit. Le fouriérisme, le saint-simonisme, le communisme, le mysticisme, le sentimentalisme, la fausse philanthropie, les aspirations affectées vers une égalité et une fraternité chimérique, les questions relatives au luxe, au salaire, aux machines, à la prétendue tyrannie du capital, aux colonies, aux débouchés, aux conquêtes, à la population, à l'association, à l'émigration, aux impôts, aux emprunts, ont encombré le champ de la science d'une foule d'arguments parasites, de sophismes qui sollicitent la houe et la binette de l'économiste diligent. Ce n'est pas que je ne reconnaisse le vice de ce plan, ou plutôt de cette absence de plan. Attaquer un à un tant de sophismes incohérents qui quelquefois se choquent et plus souvent rentrent les uns dans les autres, c'est se condamner à une lutte désordonnée, capricieuse, et s'exposer à de perpétuelles redites. Combien je préférerais dire simplement comment les choses sont, sans m'occuper de mille aspects sous lesquels l'ignorance les voit. Exposer les lois selon lesquelles les sociétés prospèrent ou dépérissent, c'est ruiner virtuellement tous les sophismes à la fois. Quand Laplace eut décrit ce qu'on peut savoir jusqu'ici du mouvement des corps célestes, il dissipa sans même les donner toutes les rêveries astrologiques des Égyptiens, des Grecs et des Hindous, bien plus sûrement qu'il n'eût pu le faire en les réfutant directement dans d'innombrables volumes. La vérité est une, le livre qui l'expose est un édifice imposant et durable. Il brave les tyrans avides, plus hardis que les pyramides et plus durables que les reins. L'erreur est multiple et de nature éphémère. L'ouvrage qui le combat ne porte pas en lui-même un principe de grandeur et de durée. Mais si la force, et peut-être l'occasion m'en manquait pour procéder à la manière des Laplace et des Say, je ne puis me refuser à croire que la forme que j'ai adoptée a aussi sa modeste utilité. Elle me semble surtout bien proportionnée aux besoins du siècle, aux rapides instants qu'il peut consacrer à l'étude. Un traité a sans doute une supériorité incontestable, mais à une condition, c'est d'être lu, médité, approfondi. Il ne s'adresse qu'à un public d'élite. Sa mission est de fixer d'abord et d'agrandir ensuite le cercle des connaissances acquises. La réfutation des préjugés vulgaires ne saurait avoir cette haute portée. Elle n'aspire qu'à désencombrer la route devant la marche de la vérité, à préparer les esprits, à redresser le sens public, à briser dans des mains impures des armes dangereuses. C'est surtout en économie sociale que cette lutte corps à corps, que ces combats sans cesse renaissants avec les erreurs populaires, ont une véritable utilité pratique. On pourrait ranger les sciences en deux catégories. Les unes, à la rigueur, peuvent n'être sues que des savants. Ce sont celles dont l'application occupe des professions spéciales. Le vulgaire en recueille le fruit malgré l'ignorance, quoiqu'il ne sache pas la mécanique et l'astronomie. Il n'en jouit pas moins de l'utilité d'une montre, il n'est pas moins entraîné par la locomotive ou le bateau à vapeur sur la foi de l'ingénieur et du pilote. Nous marchons selon les lois de l'équilibre sans les connaître, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais il est des sciences qui n'exercent sur le public qu'une influence proportionnée aux lumières du public lui-même, qui tirent toute leur efficacité non des connaissances accumulées dans quelques têtes exceptionnelles, mais de celles qui sont diffusées dans la raison générale. Telles sont la justice, l'hygiène, l'économie sociale, et dans les pays où les hommes s'appartiennent à eux-mêmes, la politique. C'est de ces sciences que Bentham aurait pu dire surtout « ce qui les répand vaut mieux que ce qui les avance ». Qu'importe qu'un grand homme, un dieu même, ait promulgué les lois de la morale aussi longtemps que les hommes, imbus de fausses notions, prennent les vertus pour des vices et des vices pour des vertus. Qu'importe que Smith sait, et selon M. de Saint-Chamand, les économistes de toutes les écoles aient proclamé en fait de transactions commerciales la supériorité de la liberté sur la contrainte, si ceux-là sont convaincus du contraire, qui font des lois et pour qui les lois sont faites. Ces sciences que l'on a fort bien nommées sociales ont encore ceci de particulier que par cela même qu'elles sont d'une application usuelle, nul ne convient qu'il les ignore. A-t-on besoin de résoudre une question de chimie ou de géométrie? On ne prétend pas avoir la science infuse. On n'a pas honte de consulter M. Thénard. On ne se fait pas difficulté d'ouvrir Legendre ou Bezout. Mais dans les sciences sociales, on ne reconnaît guère d'autorité. Comme chacun fait journellement de la morale bonne ou mauvaise, de l'hygiène, de l'économie, la politique raisonnable ou absurde, chacun se croit apte à gloser, disserter, décider et trancher en ces matières. Souffrez-vous ? Il n'est pas de bonne vieille qui ne vous dise du premier coup la cause et le remède de vos maux. Ce sont les humeurs, affirme-t-elle, il faut vous purger. Mais qu'est-ce que les humeurs ? Et y a-t-il des humeurs ? C'est ce dont elle ne se met pas en peine. Je songe à cette bonne vieille quand j'entends expliquer tous les malaises sociaux par ces phrases banales. C'est la surabondance des produits, c'est la tyrannie du capital, c'est la pléthore industrielle et haute sornette dont on ne peut pas même dire verba et voce proetereac nihil, car ce sont autant de funestes erreurs. De ce qui précède, il résulte deux choses. Premièrement, que les sciences sociales doivent abonder en sophismes beaucoup plus que les autres, parce que ce sont celles où chacun ne consulte que son jugement ou ses instincts. Deuxièmement, que c'est dans ces sciences que le sophisme est spécialement malfaisant, parce qu'il égare l'opinion en une matière où l'opinion c'est la force, c'est la loi. Il faut donc deux sortes de livres à ces sciences. Ceux qui les exposent et ceux qui les propagent. Ceux qui montrent la vérité et ceux qui combattent l'erreur. Il me semble que le défaut inhérent à la forme de cet opuscule, la répétition, est ce qui en fait la principale utilité. Dans la question que j'ai traitée, chaque sophisme a sans doute sa formule propre et sa portée, mais tous ont une racine commune qui est l'oubli des intérêts des hommes en tant que consommateurs. Montrer que les mille chemins de l'erreur conduisent à ce sophisme générateur, c'est apprendre au public à le reconnaître, à l'apprécier, à s'en défier en toutes circonstances. Après tout, je n'aspire pas précisément à faire naître des convictions, mais des doutes. Je n'ai pas la prétention qu'en posant le livre, le lecteur s'écrie « je sais ». Plaise au ciel qu'il se dise sincèrement « j'ignore ». J'ignore car je commence à craindre qu'il n'y ait quelque chose d'illusoire dans les douceurs de la disette. Sophisme 1. Je ne suis plus si édifié sur les charmes de l'obstacle. Sophisme 2. L'effort sans résultat ne me semble plus aussi désirable que le résultat sans effort. Sophisme 3. Il se pourrait bien que le secret du commerce ne consiste pas comme celui des armes, selon la définition qu'en donne le spadassin du bourgeois gentilhomme, à donner et à ne pas recevoir. Sophisme 6. Je conçois qu'un objet vaut d'autant plus qu'il a reçu plus de façons, mais dans l'échange, deux valeurs égales cessent-elles d'être égales parce que l'une vient de la charrue et l'autre de la jacquard. Sophisme 21. J'avoue que je commence à trouver singulier que l'humanité s'améliore par des entraves, s'enrichisse par des taxes, et franchement, je serais soulagé d'un poids important. J'éprouverais une joie pure s'il venait à m'être démontré, comme l'assure l'auteur des sophismes, qu'il n'y a pas incompatibilité entre le bien-être et la justice, entre la paix et la liberté, entre l'extension du travail et les progrès de l'intelligence. Sophismes 14 et 20. Donc, sans me tenir pour satisfait par ces arguments auxquels je ne sais si je dois donner le nom de raisonnement ou de paradoxe, j'interrogerai les maîtres de la science. Terminons par un dernier important aperçu de cette monographie du sophisme. Le monde ne sait pas assez l'influence que le sophisme exerce sur lui. S'il en faut dire ce que je pense, quand le droit du plus fort a été détrôné, le sophisme a remis l'empire du droit du plus fin, et il serait difficile de dire lequel de ces deux tyrans a été le plus funeste à l'humanité. Les hommes ont un amour immodéré pour les jouissances, l'influence, la considération, le pouvoir, en un mot pour les richesses. Et en même temps, ils sont poussés par une inclination immense à se procurer ces choses aux dépens d'autrui. Mais cet autrui, qui est le public, a une inclination non moins grande à garder ce qu'il a acquis, pourvu qu'il le puisse et qu'il le sache. La spoliation qui joue un si grand rôle dans les affaires du monde n'a donc que deux agents, la force et la ruse, et deux limites, le courage et les lumières. La force appliquée à la spoliation fait le fond des annales humaines. En retracer l'histoire, ce serait reproduire presque en entier l'histoire de tous les peuples, assyriens, babyloniens, mèdes, perses, égyptiens, grecs, romains, goths, francs, huns, turcs, arabes, mongols, tartares, sans compter celle des espagnols en Amérique, des anglais dans l'Inde, des français en Afrique, des russes en Asie, etc. Mais du moins, chez les nations civilisées, les hommes qui produisent les richesses sont devenus assez nombreux et assez forts pour les défendre. Est-ce dire qu'ils ne sont plus dépouillés? Point du tout. Ils le sont autant que jamais, et qui plus est, ils se dépouillent les uns et les autres. Ce n'est plus par force, c'est par ruse qu'on s'empare des richesses publiques. Pour voler le public, il faut le tromper. Le tromper, c'est le persuader qu'on le vole pour son avantage. C'est lui faire accepter en échange de ses biens des services fictifs et souvent pires. De là le sophisme. Sophisme théocratique, sophisme économique, sophisme politique, sophisme financier. Donc, depuis que la force est tenue en échec, le sophisme n'est pas seulement un mal, c'est le génie du mal. Il le faut tenir en échec à son tour, et pour cela rendre le public plus fin que les fins, comme il est devenu plus fort que les forts. Bon public, c'est sous le patronage de cette pensée que je t'adresse ce premier essai, bien que la préface soit étrangement transposée et la dédicace quelque peu tardive. Mugron, 2 novembre 1845, Frédéric Bastiat.